première fois. Est-ce qu'il y a des personnes que l'on doit accueillir? Enchanté. Alors moi, je tutoie facilement. Ton prénom? Laure. Bienvenue, Laure. On l'accueille. Elle est avec toi? Tu es avec Rita? Vous êtes un... C'est ta copine? Bon, t'en as de la chance d'avoir une copine comme Rita. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la dame qui est au deuxième rang là, c'est l'une des deux femmes les plus importantes de ma vie. C'est ma maman. Ce matin, je veux pas. Quand j'ai voulu préparer mon prêt, j'avais un thème qui était récurrent et qui traînait là dans mon cerveau depuis plusieurs semaines. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Non pas que je veuille plomber l'ambiance ou quoi que ce soit. D'abord, il n'y a pas d'ambiance dans une église, mais je ne veux pas plomber quoi que ce soit. Mais ce matin, j'aurais voulu parler du légalisme. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le légalisme? Ouais? Non? Non? Il n'y a personne qui réagit. Il y a un mec là-bas sur l'estrade qui parle. Non, je ne sais pas. Déjà, il dit des gros mots. Il a à peine commencé qu'il dit des gros mots. Non? Et en fait, le thème de mon prêche ce matin, c'était de dire, voilà, le légalisme empêche la vision. C'est un thème, là, le titre m'est arrivé il y a quelques semaines et boum, boum, ça résonne. Et c'est quelque chose que je veux vraiment partager avec vous. C'est un prêche qui va partir un peu dans de la technique, entre guillemets. Le but, ce n'est pas non plus que je parte trop loin dans de l'enseignement. Si vous avez besoin qu'on voit ça plus tard, on le fera. Ou alors, c'est un prêche qui nécessiterait plusieurs dimanches d'enseignement. Mais je vais effleurer un peu la surface. Parce que le légalisme, en fait, c'est le fait de se soumettre à la loi, à une loi. Alors, quelle est la loi? Tout dépend. Le légalisme, si je prends la définition qui est donnée dans le dictionnaire, le légalisme désigne au sens large le souci de respecter la loi. Il est parfois utilisé dans un sens plus appuyé afin de désigner ceux qui prônent l'obéissance à la loi et au droit en vigueur, quel qu'il soit. C'est-à-dire hors de toute considération morale et politique. Alors déjà, rien que la définition, on n'a rien pigé. Ça va? Je ne suis pas le seul ici? Il y en a qui ont compris? Ouais? Bon, c'est bien. Mais le légalisme, en fait, très clairement, c'est de dire, voilà, et notamment dans l'Église, hein, parce que le but, c'est que je parle de nous, de l'Église, avec un grand E, pas que ici, parce que nous, on est bien ici, on est bien. Mais le légalisme, c'est de se soumettre à des lois que l'on crée nous-mêmes. Voilà, c'est un petit résumé du terme. C'est de créer des lois ou des dictats, des choses sur lesquelles on va dire, voilà, bah tiens, toi, tu ne dois pas porter un pantalon rouge. Elle s'habille en soleil. Elle s'habille en soleil, mais tu n'as pas le droit de porter un pantalon rouge. Et après, ça va se développer. On va dire, dans l'Église, on n'a pas le droit de porter un pantalon rouge. Ce sont des lois qui sont parfois aussi pas bibliques. Ou alors, ce sont des lois qu'on va tirer de la Bible et puis on va faire en sorte qu'elles soient à notre convenance. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on crée une secte. Ça crée une secte. Il suffit de tirer un verset de la Bible, on le prend, on le transforme, on le met à sa sauce, on transforme un petit peu les mots, on leur donne un sens qui est un petit peu différent, et boum, on est dans une doctrine. Et les doctrines, on en a plein. On en a plein. On en voit partout des doctrines. On voit des traditions, on voit des doctrines. Et moi, quand j'avais ce thème de prêche, c'était vraiment de dire, je veux avoir un encouragement. Je ne veux pas mettre des stops comme ça parce que, effectivement, si je suis dans un certain légalisme, eh bien, je vais être stoppé net dans ma démarche spirituelle, dans ma bonne marche spirituelle, et je ne vais pas pouvoir aller de l'avant. Et je vais être bloqué parce que Dieu, il a une vision qui est au-delà de ça pour moi, et je vais être bloqué au stop, et je ne vais pas pouvoir atteindre ma vision, la vision que Dieu m'a donnée dans ma vie. Et c'est une chose qui, pour moi, est relativement grave. On ne va pas non plus se voiler la face, on va utiliser les termes qu'il faut. Pour moi, c'est grave, parce que des fois, il y a des églises qui n'avancent plus parce qu'elles sont sous une forme de légalisme. Alors, dans ces cas-là, moi, je veux un peu revenir sur le fait d'écouter Dieu. Vous savez que c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu témoigner ce matin, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit être attentif. Quand Grâce parle du prophète ou du requin, c'est vrai que c'est très révélateur. On est entouré de requins dans la vie. On est entouré de requins, mais on est aussi entouré par la grâce de Jésus-Christ. Et la grâce de Jésus-Christ, elle est là pour prendre le dessus sur les requins. Je ne sais pas si dernièrement vous avez vu cette vidéo. Il y a un jeune qui, ça a fait le tour de tous les médias, il y a un jeune qui a sauté d'une falaise, et il y a donc son copain qui était en train de filmer, et il saute de la falaise, alors il y avait plusieurs dizaines de mètres, hein, c'était quoi une vingtaine de mètres, et il tombe nez à nez avec un grand blanc, un requin blanc, nez à nez avec un requin. Vous imaginez les pétoches, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça par rapport à ton témoignage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que le requin blanc, ben, il voit les gens qui. Enfin, il entend les sons des gens qui nagent, et c'est comme ça qu'il attaque. Il attaque des otaries, etc. Et le jeune, il s'est mis à nager. Il y a son copain qui lui dit, hey, il y a un requin qui est juste devant toi. Il s'est mis à nager. Et ben, il a eu du pot parce que le requin n'avait pas la dalle. Et il a pu s'en tirer. Et ça a fait le tour des médias. Et on est comme ça des fois. On plonge, comme ça, j'aurais pu passer cette vidéo. On plonge des fois dans un océan de problèmes qui sont infestés de requins. Et on est là et on se retrouve face à face par rapport à des requins qui veulent nous dévorer, tout cru. Alors qu'il faut qu'on puisse avoir un certain discernement, que l'on puisse dire, Seigneur, ok, moi je veux bien avancer dans ta vision, mais c'est toi qui vas me protéger, parce que ta grâce m'entoure, ta grâce est avec moi. Et on a vraiment ce privilège, c'est d'avoir Jésus-Christ qui chaque jour va nous accompagner, chaque jour il va nous parler. Et c'est vrai qu'il y a une notion que je voudrais aborder ce matin. Dans la Bible, il y a des personnes qui prennent une Bible et puis ils vont la lire comme un livre. Alors moi j'ai une grosse Bible, alors faites pas gaffe s'il y a des choses qui tombent parce qu'elle est pleine de papier. Et puis ils prennent au hasard comme ça, et puis voilà, bah tiens, Matthieu 15, 8, les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers, ils la lisent comme un bouquin. Donc ça peut être bien, ça peut être moins bien. Parce qu'il y a deux notions qui sont là. Il y a le logos et il y a le rhéma. Et c'est là où je rentre un peu dans la technique. Je vais l'effleurer, la technique. Je vais vous donner la définition du rhéma, c'est un mot grec, hein. C'est le mot parler de Dieu. Le logos, c'est le mot écrit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certains chrétiens qui vont prendre une Bible et qui vont s'arrêter au logos. Le logos, c'est la Bible écrite, c'est la parole de Dieu écrite. Et après, il y a la notion de parole de Dieu parlée, qui est le rhéma. Le rhéma, c'est tout simplement ce que font aujourd'hui des prophètes, toujours pour aller dans le même sens de la vision de grâce. Les prophètes reçoivent le rhéma, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole parlée de Dieu. Et il faut pour ça que l'on puisse avoir une démarche avec Dieu où on va acquérir cette sensibilité dans nos vies pour pouvoir à la fois associer le logos et le rhéma. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ouais, je vous sens. Déjà, bon, c'est un bon pavé, là, il faut le digérer, celui-là. Ouais, ça va? Donc, on est là et on se retrouve entouré par rapport à tout ça. Et on se dit, ben voilà, moi je suis dans les problèmes. Et voilà. Bon. Cette image, elle est amusante. Elle est amusante. Mais c'est tout à fait, parfois, là, on représente le chat comme étant. Le chat, c'est le personnage de gauche. Hein. C'est un personnage d'une BD. Mais le chat, on le représente comme. On peut le représenter comme des personnes qui ont une certaine stature parfois dans l'Église, certaines religiosités aussi, des gens qui ont une religiosité et qui vont dire, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, si toutefois tu restes dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. Ça, c'est de la légalité. C'est du légalisme. Ouais, c'est du légalisme, pardon. C'est du légalisme parce que, eh ben, on va inculquer des choses à quelqu'un, il ne va pas pouvoir sortir de ce cadre. Il va devoir obéir. Alors attention, maintenant, on a aussi des commandements dans la parole où là, on peut s'y soumettre parce qu'on sait que c'est Jésus qui nous a donné ces commandements. D'accord? Est-ce que ça va? Donc voilà, en quelques mots, là, j'ai donné la définition du légalisme. On va lire Colossiens 2, les versets 8 à 10. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Qui se fondent sur des traditions toutes humaines, il manque un E, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans le monde, mais non sur le Christ. Et c'est pour ça que des fois, on peut très bien voir, même dans l'Église, on peut voir des fois des règles qui sont là, qui ne sont pas de Jésus. Alors je ne vais pas prendre d'exemple, hein, le but, ce n'est pas non plus de prendre des exemples, mais des exemples, il y en a pas mal. Mais là, on nous prévient. Il y a Paul qui prévient les Colossiens en disant, oh, faites attention parce qu'il y a des personnes qui vont se déplacer, qui vont venir vous voir et qui vont vous inculquer une sagesse qui est, entre guillemets, une sagesse, bon, faite de tromperie, mais qui n'est pas de Jésus. Donc les principes élémentaires qui régissent la vie dans le monde, mais non sur le Christ, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Sous-entendu, Jésus, c'est-à-dire qu'on a Jésus qui nous a donné un exemple. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu et il a fait en sorte que l'on puisse non seulement entendre sa parole, donc le rhéma, parce que Jésus a parlé. Je vous rappelle qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de Bible. Ça va? La Bible a été écrite après. Bon, il y avait les cinq premiers livres, hein, ce qu'on appelle le Pentateuque, mais il n'y avait pas de Bible. C'est-à-dire que pour l'instant, les disciples étaient avec Jésus, ils avaient un réma, c'était Jésus qui parlait. Ils avaient des révélations de la part de Jésus. Donc c'est en lui, en Jésus, c'est dans son corps, dans le corps de Jésus, c'est-à-dire que l'on doit se stabiliser. Et là, il y a une notion qui est importante, et c'est une notion que je vais aborder après, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes trinitaires. On a tous ici, hormis peut-être certains, un corps, ouais, une âme, un esprit. Donc là, on se doit de résider dans le corps de Jésus, dans le corps de Jésus. Et partout dans la Bible, vous voyez les images qui reviennent au corps. Quand on prend la Sainte Cène, quand on prend la Cène, on parle du corps de Jésus et du sang de Jésus, qui sont des symboles, qui sont vraiment là pour rappeler le sacrifice de Jésus, pour que l'on puisse arriver et maintenant marcher sous sa grâce. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Moi, je trouve que le verset 10, il est merveilleux, parce qu'à partir du moment où on a une union avec Jésus-Christ, eh bien, on peut marcher avec lui pleinement comblé, pleinement comblé. Est-ce qu'on peut mesurer le principe de cette expression « pleinement comblé » ? Est-ce qu'il y en a ici qui sont pleinement comblés ? Ouais ? Est-ce que vous voulez être encore plus pleinement comblé ? Ouais ? Ben, le seul moyen pour pouvoir être pleinement comblé, mais même plus que pleinement comblé, c'est de marcher avec Jésus-Christ. Car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Jésus est le chef de toute autorité et de toute puissance. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça ? Jésus est au-dessus de certaines lois que l'on peut se donner à nous-mêmes, avec des dictats. D'où la forme de légalisme dans l'Église, parfois. Comme vous le savez, moi j'ai tellement envie de pouvoir voir les visions de chacun ici se révéler. Non seulement se révéler, mais de pouvoir tendre à ces visions et de pouvoir voir des visions qui s'accomplissent. Des visions, des directions que Jésus donne en disant, voilà, et ça j'en parle à chacun de mes prêches parce que c'est important de pouvoir dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans ma vie? Comment tu veux que j'y aille? Par quels moyens? Est-ce que je dois traverser une rivière? Je dois prendre un bateau ou j'y vais à la nage? C'est ça la vision, c'est de dire, ok, moi, enfin, le Seigneur vous dit, moi j'ai ça comme pour toi dans ta vie, et puis tu vas utiliser tel moyen pour pouvoir y arriver. La vision, elle va jusque là, où Dieu va montrer comment utiliser sa vision, comment aller vers sa vision. Et c'est pour ça que Jésus, il a vraiment cette toute puissance. On a un grand Dieu, quand Aurélie tout à l'heure a dit, on a le Dieu des dieux. C'est bon, non, de louer le roi des rois. Le roi des rois, est-ce qu'on imagine le roi des rois? Ces derniers temps, on a vu des couronnements là en Espagne, un changement de roi. Et quand on les voit se prosterner, faire la bise sur la main, machin, avec la reine d'Angleterre, j'ai rien contre la reine d'Angleterre, mais je fais gaffe parce qu'il y en a deux là. Il y en a même plus que ça, il y en a une troisième là-bas. Je vise les Anglais. Hein. Et puis on a aussi une prof d'anglais, alors attention. Mais, mais quand on les voit vénérer comme ça, même sans vouloir être méchant, mais il y a certaines divinités aujourd'hui sur Terre que les humains vénèrent parce qu'ils ont un besoin. Ils ont un besoin inné de pouvoir de louer quelque chose, de louer quelqu'un. Parce qu'il est bien mis dans la parole que Dieu a mis l'empreinte, son empreinte dans nos cœurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est athée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais quelqu'un qui se dit athée aujourd'hui, c'est faux parce que forcément Dieu aura mis son empreinte dans son cœur. Et il y aura forcément une recherche de spiritualité quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des divinités comme Neymar en ce moment au Brésil. Il y a des Brésiliens dans la salle ? Bon, alors maintenant, Neymar, on lui a tordu le cou, hein, mais c'est le cas de le dire parce qu'il s'est brisé une vertèbre. Mais c'est une divinité. Il y en a plein qui le disent, et quand vous voyez le Brésil, ils ont une religion supplémentaire à la nôtre, c'est le football. C'est une religion, le foot, au Brésil. Parce que les gens, les Brésiliens, ont besoin de vénérer quelque chose. Et je crois qu'au Brésil, à Rio, il y a 5 clubs de foot différents. Je crois que c'est 5. Et c'est la guerre entre eux. Ils ont chacun leur religion foot avec leur dieu club. Comme ici, hein, le LOSC et le RC Lens, hein, c'est la guerre. Parce qu'il y a ça, on a besoin de vénérer quelque chose. Je connais quelqu'un, moi, qui, son idole, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Et elle a des posters dans la maison, elle est mariée, son mari est là, il y a des posters de Johnny dans la maison. L'homme a besoin de vénérer quelque chose. Il a besoin de voir quelque chose, de voir quelque chose. C'est là où on a cette force, c'est que nous, les chrétiens, on aime un Dieu, on adore un Dieu qu'on ne voit pas. Mais on ne le voit pas avec nos yeux. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'à partir du moment où vous vénérez Dieu, vous êtes vraiment dans de l'adoration, forcément, vous goûtez à sa présence. Forcément, ce matin, il y avait la présence de Dieu qui était là. La présence de Dieu était là. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, moi, la présence de Dieu, elle était là. Elle était à ma place, là. Vous auriez dû être à côté de moi. J'aime ça, louer Dieu. J'aime ça, louer Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Parce que je suis loin d'être parfait. Est-ce qu'il y en a qui pensent que je suis parfait ici? Non? Chanel, t'es marié, toi? Ah, dommage. Mais voilà, non, mais on a un Dieu qui nous a tiré du pétrin. Je ne sais pas si vous imaginez le pétrin dans lequel on était. Et aujourd'hui, on a ce privilège de pouvoir dire, mais Seigneur, j'ai toute la liberté pour pouvoir venir à toi, pour pouvoir louer ton nom, pour pouvoir être là, mettre ma vie en ordre devant toi, pour pouvoir te suivre. Parce que non seulement tu es devant moi, je te suis, tu es derrière moi, tu me pousses, tu es à côté de moi, tu me soutiens. Et même il y a des moments où j'ai mes pieds qui ne touchent plus le sol parce que tu me portes. C'est ça Jésus, c'est lui Jésus. C'est celui qui est devant, derrière, à côté et qui vous porte. J'ai aucun amen. Si, j'en ai eu un. C'est toi, Aurélie ? Un point pour Aurélie. Les autres, accrochez-vous, il y en a déjà un point. Moi, ça me passionne. Faut le temps que ça tourne. Hein. Faut le temps que ça tourne, il a mis du temps, mais... Bon. Pourtant, Rudy, hein, je pensais que tu réagissais plus vite que ça. Mais bon. Ah, d'accord, ok. Ah zut, pourtant elle était bonne celle que j'avais faite. Dommage. Arrête de lui parler pendant que je prêche. Tu sors. On va lire ce passage parce que on a tendance à lire ce passage-là, mais de façon très... comme une lecture. Et j'ai eu l'occasion de l'entendre, moi, avec plus qu'une lecture. C'était carrément avec une notion de réma dedans, une notion de révélation. Il y a des fois, vous pouvez lire la Bible 5, 6 fois, 7 fois, pour ceux qui l'ont lu une dizaine de fois, une centaine de fois. Il faut y aller, hein. Mais il y a des moments, vous allez lire un passage et vous allez le lire. Et puis vous allez le reprendre le lendemain, vous allez le relire et plus de la même façon. Et puis le surlendemain, vous allez le relire, mais encore d'une autre façon. Ça, c'est le réma. C'est que Dieu va se révéler dans son réma, dans sa parole, parler. Il va se révéler dans le logos avec une notion de réma. L'association logos-réma. Galates 5, les versets 13 jusqu'à 26, hein, parce que ça va aller, y a deux dias. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Je pourrais m'arrêter là. Bon, je vous rappelle le thème de mon prêche. Le légalisme empêche la vision. Le légalisme, c'est un manque de liberté. On se prive de la liberté du Saint-Esprit. On se prive du fait que Jésus dise « Moi, je vous ai appelé à la liberté. » Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est... C'est pas moi qui le dis. Je reprends l'expression d'Aurélie, mais c'était la mienne, je l'avais dit avant celle-là. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Je pourrais encore m'arrêter là. Deuxième phrase, la première est importante, la deuxième l'est encore plus. C'est-à-dire que là, quand on va imaginer par rapport à cette dia, je vais aller juste là. 1 Corinthiens 6, 19, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous, quand Dieu dans l'Exode a dit voilà mon temple, vous allez le faire de cette façon-là. Il y a quand même une, je crois que c'est 26 chapitres sur la création du temple, hein, quand même dans la Bible. Hein. Mais Dieu a dit moi je veux qu'il y ait un parvis. Ensuite, vous allez faire en sorte avec des draps, avec des colonnes d'or, d'argent, etc. Vous allez faire un lieu saint. Et après, vous allez faire un lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est là où moi, ma présence sera. Et le sacrificateur viendra me voir une fois par an. Avec une corde attachée à sa cheville au cas où je le foudroierais, parce qu'il n'était pas pur. D'accord ? Et donc voilà, la constitution du temple de Dieu. Mais Jésus est arrivé et il a donné sa vie en sacrifice. Waouh, quel beau sacrifice. Il a donné sa vie en sacrifice sur une croix. Et il a fait en sorte qu'on puisse devenir nous, parce qu'il a dit, voilà, je m'en vais auprès du Père, mais je vous envoie quelqu'un, je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra et qui vous guidera. D'accord ? Et c'est à ce moment-là où il dit, voilà, 1 Corinthiens, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez plus. Vous êtes chrétien, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Dieu. Et c'est là où il faut avoir cette nuance en disant que si je suis le temple du Saint-Esprit, eh bien j'ai aussi cette notion de parvis, de lieu saint, de lieu très saint, qui sont mon corps, mon âme, mon esprit. Et mon esprit, si je reçois l'Esprit de Dieu, mon esprit va être transformé par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où il faut bien faire la nuance. On a pas mal d'erreurs qui sont faites en disant on va sauver des âmes. On ne sauve pas l'âme, on sauve l'esprit. C'est l'esprit qui va auprès de Dieu. Ça va ça? On a inversé. Hein. Cette notion, elle est hyper importante. Corps, âme et esprit. Aujourd'hui, quand on parlait des athées tout à l'heure, les athées ont un esprit atrophié. Ouais. Ils ont un esprit qui est leur esprit charnel, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et à partir du moment où vous avez l'esprit de Dieu en vous, votre esprit va se développer parce que vous allez avoir cette plénitude en Dieu. Alors je ne dis pas que ce sont des animaux, parce que si on est corps et âme, on est des animaux. Les animaux sont corps et âme. Les végétaux sont corps. Les animaux sont corps et âme. Les humains sont corps, âme, esprit. Et ça n'empêche que l'homme est un animal. Parce que l'homme a été fait en même temps que les animaux le sixième jour. Cette notion, elle est hyper importante. Parce que c'est là où on va comprendre que notre esprit, à partir du moment où on va revenir à Galates, c'est à la liberté que vous avez été appelé, donc la liberté de l'esprit qui va interagir avec votre esprit. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus l'a bien dit, hein, je ne suis pas venu pour abolir, hein, je suis venu pour accomplir la loi. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Marchez par l'esprit, l'esprit associé avec l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont agir par leur corps, avec des besoins de corps, mais pas par l'esprit. Et aujourd'hui, on est appelé, nous, à agir par l'esprit. C'est-à-dire qu'on a aussi notre esprit, et notre esprit va être renouvelé chaque matin. L'esprit nous renouvelle avec des bénédictions nouvelles pour que l'on puisse rentrer dans la plénitude de Dieu et acquérir toutes ces bénédictions. C'est pas merveilleux, ça? Ouais? Vous êtes toujours avec moi? Ou je dois vous faire marcher un petit coup, dire bonjour à votre voisin? Non? Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature, ou de nature propre, pardon. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit humain a des envies contraires à l'esprit de Dieu. Clair ? En effet, la nature humaine... Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. L'esprit de Dieu, ou notre esprit, donc associé avec l'esprit de Dieu, a des envies contraires à ceux de notre nature humaine. Juste avant, on a lu qu'on ne s'appartenait plus. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça, c'est le thème de mon prêche. Si vous êtes sous l'esprit... Vous n'êtes plus sous la loi. Il n'y a pas de légalisme. Si vous vous créez vous-même des lois, si vous limitez Dieu, eh bien, on ne verra pas les choses avancer. Parce que Dieu, il a tellement des choses grandes dans vos vies. Je me souviens dernièrement, il y a une prophétie qui a été donnée. C'était, bon, sans vouloir, mais j'étais là et j'avais une certaine, entre guillemets, détresse. Et quelqu'un est venu sur moi à prophétiser. Il a dit, voilà, Dieu sait que tu attends des grandes choses, mais Dieu va t'en donner des plus grandes encore que ce que tu imagines. Et ça, quand vous recevez une prophétie comme celle-là, Ah. Là, vous vous dites, bah, vivement que je les vois, ces grandes choses, plus grandes que celles que j'attends. Parce que des grandes choses comme ça, moi j'en attends, mais alors, tous les jours, je suis là, trépigné comme un gosse, mais je les veux, moi, ces choses. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Les œuvres de la nature humaine, l'esprit humain, a des œuvres qui sont évidentes, on les voit. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les jalousies, les colères, les jalousies, les colères, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions et les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Ah, les meurtres, on n'a pas. Ah. Non, je plaisante. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je ne dis pas qu'on a ça dans notre église. Hein. Je me reprends, mais c'est vrai que parfois, on voit dans des églises des combats entre chrétiens parce qu'ils ont ils sont sous la nature humaine qui sont là et forcément, Dieu ne peut plus agir. Dernièrement, j'en parlais ce matin avec ma mère, j'ai entendu un prédicateur qui disait, mais quand, je ne sais plus si c'est ici, non, je ne pense pas que ce soit ici, il disait, mais quand le diable a été déchu et que Dieu l'a viré du ciel, eh bien, le diable il est tombé dans le groupe de louanges. Parce que dans les églises, c'est impressionnant. Souvent, dans des églises, nous, on a, et c'est vrai que là-dessus, on peut se vanter. On a un bon groupe, on s'entend bien, on a une unité qui est là. Et franchement, on bosse bien. Parce qu'on n'a pas ces problèmes-là. Franchement, j'avoue que c'est vraiment un privilège et une bénédiction de Dieu. Mais quand je vois des fois dans certaines églises, dernièrement, je parlais avec des amis, mais ils ont ça. Dans leur groupe de louanges, ça n'avance pas parce qu'ils sont en train de se bouffer le nez. Et pendant ce temps-là, eh bien, si le groupe de louanges est en train de se bouffer le nez, eh bien, le peuple n'avance pas. Et on n'arrive pas à entrer dans cette plénitude de la louange. Et c'est pour ça que la louange, ici, progresse. Et qu'on progresse encore, et qu'on va encore progresser, et qu'on va arriver avec des choses qu'on va voir. Vous allez vous accrocher, mais on va voir des choses. La louange est porteuse. C'est pour ça que je vous invite, s'il vous plaît, arrivez à l'heure. Parce que la louange, elle est tellement importante. Si vraiment vous aimez Dieu, je ne juge personne. Vous pouvez avoir tous des motifs pour arriver en retard. Moi, j'étais en retard ce matin, je suis arrivé à -20. J'étais en retard. Mais si vous aimez vraiment Dieu, venez pour vous mettre dans la louange, parce que c'est là où vous avez votre cœur qui va venir se répandre pour Dieu. C'est là où Dieu va venir vous parler. C'est là aussi où Dieu va venir vous... Je ne dis pas que ce n'est pas aussi pendant que vous lisez votre Bible ou pendant que vous parlez avec un frère ou une sœur, mais pendant la louange, si vous rentrez dans cette plénitude de la louange, mais Dieu, il est là, puis bam, il va vous montrer des choses, il va vous guérir, il va vous remplir, parce que c'est là où est sa présence. Pareil, toujours sans aucun jugement. Même si vous arrivez, vous avez un bon motif, vous arrivez en retard et que vous avez quelqu'un qui est sur sa chaise en train de louer Dieu, n'allez pas le déranger pour lui faire une bise, pour lui dire bonjour. Laissez-le dans un moment de louange avec Dieu. Il est avec Dieu. Si vous avez votre téléphone qui sonne, vous êtes avec Dieu. Laissez le téléphone sonner. Vous êtes avec Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, on est avec Dieu. C'est le roi des rois. Respectez ça, respectez Dieu. Venez arriver à l'heure. Tous les footballeurs, quand ils sont en train de vouloir voir un match de foot, ils sont là pour le coup d'envoi. Et bien ici, on a un coup d'envoi. Et le coup d'envoi, c'est pour que le match se déroule bien, pour qu'on puisse voir des grandes choses dans un culte. Et je dis ça avec tout l'amour que vous pouvez imaginer. Il n'y a aucun jugement, aucune critique dans ce que je dis. Et c'est vrai qu'on pourrait mettre les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, les retards, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. On est bien d'accord, aucun jugement. Faites ça et vous verrez, Dieu va agir dans votre vie. C'est des petits détails que Dieu voit. Parce qu'il est mis dans la parole, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il est dit dans la parole que quand vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous en confie des plus grandes. Vous arrivez à l'heure, Dieu voit la petite chose. Tu es arrivé à l'heure, ok, on va faire en sorte que la prochaine fois, tu arriveras à -5, et puis -10, et puis là, tu vas rentrer dans l'intercession, parce qu'à 8h30, on est en intercession, et puis tu vas rentrer dans le combat, et puis je vais bénir ta vie, je vais faire en sorte que tu prospères, je vais faire en sorte que tes enfants aient leur diplôme et leur bac, je vais faire en sorte que tu puisses trouver un appartement, je vais faire en sorte que tu puisses trouver un boulot, mais je vais te bénir parce que tu es fidèle dans les petites choses, et je vais te donner des grandes choses. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alors on parle bien le fruit de l'esprit, hein. pas les fruits de l'esprit, c'est un package. Le fruit de l'esprit, plus. Vous avez une grosse pomme et dans la pomme, vous avez amour. Vous avez tout ce qu'il y a là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, arriver à l'heure. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi, pas de légalisme. Il n'y a pas de loi. Gardez cette liberté avec Jésus. Gardez la liberté de l'esprit. Gardez cette liberté de dire, moi, si je suis dans le fruit de l'esprit, eh ben, je ne mets pas de limite à Dieu parce qu'il a tellement de grandes choses qu'on puisse voir que je ne vais pas le limiter. Et si je limite Dieu, je pêche. C'est un péché de limiter Dieu. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et c'est là que nous verrons des grandes choses pour Dieu. Est-ce que vous n'avez pas soif de ça? Est-ce que vous n'avez pas soif que Dieu agisse et puisse intervenir, mais d'une façon grandiose et encore plus grandiose? Et c'est pour ça que Dieu te dit, voilà, regarde, accroche-toi au texte, j'ai enlevé les images. Parce que les images qu'on se fait dans la tête, elles ne sont pas bibliques parfois. Laissez agir le logos et le rhéma. Et enlevez les images que vous avez dans votre tête. Parce que c'est là où Dieu va agir. Accroche-toi au texte, j'ai enlevé les images. Ceux qui lisent beaucoup de livres, apprécie de ne pas voir le film parce qu'il y a leur imaginaire qui est là. Quand on lit un livre, il y a notre propre imaginaire. Et ceux qui lisent les bouquins disent « Je préfère lire le bouquin que voir le film. » Parce que dans le film, c'est l'imaginaire du producteur. Là, c'est pareil, on a notre imaginaire. Quand vous lisez la Bible, vous imaginez les scènes que vous lisez. Vous les imaginez. Moi, j'ai Jésus, j'ai un visage de Jésus dans ma tête. Quand je lis Jésus, ceci, je vois Jésus. Parce que j'ai mon imaginaire, je l'imagine comme ça. Que ce livre de la loi, alors bien évidemment, on est sous une loi qui est accomplie par le sacrifice de Jésus. On a une loi qui est là. C'est la loi de la grâce. Que ce livre de la loi ne s'éloigne. Ça, Antoine en a parlé la semaine dernière. Et c'est un verset qu'on doit apprendre à l'école biblique. On doit l'apprendre par cœur. Je ne m'en souviens plus. Bon, c'est bien. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu enlèves les images, tu enlèves le légalisme, tu vis par l'esprit et tu as de la réussite dans tes entreprises. Point. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dieu, il a envie de ça. Et en plus, il a envie de ça. Vous vous rendez compte? En plus, il a envie de ça. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras, si tu travailles avec l'Esprit, eh bien, Dieu est avec toi et Dieu te bénit dans tes entreprises. Ah, moi, ça me fait du bien de lire des choses comme ça. Ça fait du bien, ça fortifie. Et c'est mis là. Fortifie-toi et prends courage. Ne te l'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. C'est une question, là, mais... Est-ce que je ne te l'ai pas dit déjà? Arnaud, je ne t'ai pas déjà dit qu'il fallait que tu te fortifies? Mais prends courage. Arnaud, il peut très bien venir me voir. Fred, j'ai un problème là dans ma vie. Mais fortifie-toi, prends courage. On va prier pour toi, mais prends courage. Parce que si Dieu est avec toi... Ah, vous l'aimez bien celui-là. Hein, ah, celui-là, ça répond tout de suite. Hein. Ça répond mieux que les amens. Hein. J'ai fini. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la... Allez, plus fort et plus de conviction. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est... Amen. Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous avez envie de ça? Moi, j'ai envie qu'on puisse voir des choses. Est-ce qu'il y en a ici qui sont conscients qu'il y a des lois qui se sont mises dans leur vie et qui veulent les supprimer de leur vie? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de ça? Est-ce que vous avez envie ce matin qu'on puisse venir là? Ou est-ce que vous avez envie, vous qui vous sentez concerné par ce légalisme qui est dans votre corps, dans votre cœur, de venir là pour que l'on puisse prier pour vous, que l'on puisse vous bénir, pour que Dieu puisse agir dans votre vie, qu'il puisse vous purifier de ce légalisme, qu'il puisse vous enlever ces lois que vous avez là? Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous êtes dans une cage. Vous connaissez la différence entre une forteresse et une prison? La prison, on vous y enferme pour pas que vous sortiez. La forteresse, vous vous y enfermez pour ne pas être attaqué par l'extérieur. Prison, forteresse. Aujourd'hui, les chrétiens ont les deux. ils sont en prison dans une forteresse. Ah ouais, on est en prison dans une forteresse. La prison, c'est on vous y met parce qu'on ne veut pas que vous sortiez. Hein, c'est bien, bah, les petits chrétiens, restez dans votre église, vous y êtes bien. Vous y êtes bien. Si vous ne bougez pas à l'extérieur, vous y êtes bien. Mettez-vous. Et puis, à la forteresse, c'est de dire, bah, moi, je me mets avec des petits remparts. Surtout, venez pas me voir hein, parce que je suis dans ma forteresse et je ne veux pas bouger. D'accord ? On va sortir de ça. Quels sont ceux qui ont envie de sortir de leur forteresse ? Quels sont ceux qui ont envie de pouvoir bouger et de pouvoir dire, moi, je veux ça, je veux la liberté de Jésus-Christ. Approchez-vous, venez devant et on va prier tous ensemble. On va prendre un chant de victoire et on va vraiment dire au Seigneur, voilà, moi, je veux vraiment être béni, je veux vraiment quitter cette forteresse que j'ai parce que je veux vraiment voir des choses grandes dans ma vie. Amen. Je te remercie Jésus, je te remercie Père pour ces moments. Je te remercie Jésus parce que tu nous as parlé, tu m'as parlé Jésus. Je te remercie Jésus parce que à partir du moment où on va prendre conscience de toutes ces choses, c'est là où Seigneur Jésus, on va pouvoir travailler sur ça. Et tu vas nous aider à travailler sur ça. Tu vas nous aider Seigneur à pouvoir passer outre, à pouvoir être même libéré s'il le faut. Qu'il puisse y avoir de la délivrance Seigneur de toutes ces chaînes que l'on se met soi-même dans nos vies. Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir vraiment agir pour toi et d'avoir cette liberté. Amen. Amen. On y va. Alléluia Jésus. Approchez-vous. Alexis, pas là ?
Que les cieux se révèlent. Réunis en ce lieu, rassemblés en ton nom, Dieu, nous t'invoquons. Alors ta grâce descend. Nos cœurs sont embrasés par ta vérité. Le sujet de nos chants, la raison de nos vies.
Que les cieux se révèlent, nous voulons te voir. Que les églises libèrent un torrent puissant coulant de ton cœur. Et qui envahit notre louange.
Réunis en ce lieu, rassemblés en ton nom, Dieu, nous t'invoquons. Alors ta gloire descend, nos cœurs sont embrasés par ta vérité. Le sujet de nos chants, la raison de nos vies.
Que les cieux se révèlent, nous voulons te voir. Que les églises libèrent un torrent puissant coulant de ton cœur et qui envahit notre louange.
Que les cieux.
Que les cieux se révèlent, nous voulons te voir. Que les églises libèrent un torrent puissant coulant de ton cœur